Vous me permettrez de vous remercier tous et de remercier particulièrement Survie qui nous convie à quelque chose difficilement acceptable et mais combien importante, à savoir d'accepter de regarder ces choses-là devant lesquelles on voudrait détourner le regard, du moins quand on a la chance de n'être pas directement impliqué. Moi, j'ai le privilège d'être impliqué, donc je ne peux pas détourner le regard. Et comme je n'ai pas envie de risquer de tomber dans le piège, devenir un instrument de la haine, il me faut penser. Donc on va essayer de penser ensemble, de partager mes petites pensées et réflexions. Et donc, vous m'excuserez s'il y a de l'émotion, j'essaierai d'avoir la distance nécessaire, mais on est en intimité, donc ça risque de ne pas être toujours le cas. Je crois qu'on m'a demandé un peu de revenir sur ce qu'on peut entendre par génocide, les traits liés au génocide, et un petit peu, je crois, l'histoire du Rwanda. En 18 minutes, je vais essayer. Alors, effectivement, le génocide est un concept juridique qui, je crois, effectivement, avait vu le jour en 1944 avant d'être confirmé en 1948. Moi, je ne suis pas homme, encore moins, ni femme de droit et encore moins homme de droit. Mais ce qui est clair quand on y travaille, notamment en tant qu'historien ou chercheur en sciences sociales, quand on essaye d'analyser, c'est qu'en dehors du cadre juridique, il y a des conditions socio-économiques et politiques, historiques aussi, qui pourraient peut-être permettre plus d'approcher ce que c'est un génocide. Je présenterai aussi mes excuses à Arlette et à d'autres sur moi aujourd'hui quand je travaille. Je m'en tiens aux génocides qui ont été reconnus par l'ONU quand je parle, ce qui n'empêche de réfléchir et surtout de m'incliner devant la douleur des victimes des autres crimes, parce que malheureusement notre époque en est peuplée et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Et je dirais toujours que de ne pas dire qu'un crime n'est pas génocidaire, ça ne veut pas dire qu'il est moins grave, bien au contraire. Et donc à partir de là, j'aimerais bien vous partager avec vous quelques traits que j'ai pu dégager avec l'aide des historiens dans une étude que j'avais menée sur les discours de la haine, en analysant les discours de Hitler, comparés, en sachant que comparaison n'est pas raison, obligatoirement. Et donc, entendons-nous d'abord, quand je vous parlerai de génocide, sur ce qui suit, ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, loin d'eux. On est dans une époque médiatique, surmédiatique, où l'information, où les paroles perdent leur sens, parce qu'on cherche à faire monter les enchères, parce qu'on veut émouvoir sans jamais laisser la place à la réflexion. Donc, je crois que souvent, c'est par des raisons de paresse ou de manque de rigueur intellectuelle, mais aussi parce qu'on aime bien choquer. Parfois, c'est pire, parce que c'est le cynisme, c'est pour préparer déjà le terrain au négationnisme. Donc, quand on se penche sur les trois génocides, à savoir celui des Arméniens, celui qui a touché les Juifs et celui qui a touché dernièrement les Tutsis du Rwanda, on peut retrouver ces traits qu'ils partagent. Donc, le génocide étant un crime qui se conçoit et se réalise sur des victimes qui n'ont comme seul crime que d'être nés comme ils sont, où ils sont arméniens, juifs ou tutsis. Le génocide n'est pas un trait lié au nombre de victimes, même s'il est vrai que son nombre étonne par son ampleur. La cible est désignée par sa naissance, et cette naissance lui vaut tous les maux, et c'est ça même qui va conduire la future victime à sa perte par l'extermination. L'ennemi, désigné par l'idéologie génocidaire, représente le mal absolu. C'est un mal biologique qu'il porte dans le sang, donc c'est dans sa nature. Il est impossible d'envisager qu'il en soit autrement. Si on veut combattre ce mal, il va falloir faire disparaître celui qui le porte en lui. Et c'est ça une des différences fondamentales avec les camps de rééducation. Quand on emmène les gens dans les camps de rééducation, on sait que la majorité va y rester, c'est ce qui est recherché. Mais quelque part, dans l'idéologie, dans la théorie, c'est comme si on envisageait qu'éventuellement, ces gens-là sont rééducables. Dans le génocide, ces gens-là, il n'y a rien qui peut les sauver puisque c'est eux le mal long en eux. C'est ce qui fait aussi la différence avec les guerres religieuses qui ont exterminé on sait combien de gens. C'est que dans cette situation, on imagine que si ces païens, ces mauvais gens acceptaient de se convertir à la nouvelle religion, il y a des chances, je mets des guillemets, que leur âme soit sauvée. Dans le génocide, cela est inenvisageable. Donc, le crime de génocide aussi se déroule dans un contexte de guerre, mais ce serait se tromper que d'envisager les victimes de génocide comme des victimes de guerre. Les gens qui sont visés par le génocide, effectivement, il y a d'autres victimes, je ne dirais pas collatérales, parce que je n'aime pas ce mot-là. Pendant cette guerre, il y a d'autres gens qui meurent. Mais ce qu'on désigne comme victimes de génocide, c'est parce que ils ont été tués pour ce qu'ils sont. Ce n'est pas parce que tel type qu'on a trouvé en prison a été condamné à la mort par pendaison, excusez-moi, et que donc, étant donné qu'il avait tué 5 ou 10 enfants après les avoir violés, on va le tuer. Non, on le tuera d'abord parce qu'il est Tutsi. Et personne ne sera jugé pour ce qu'il a fait, pour son statut socio-professionnel, pour ce qu'il a dit, pour son appartenance politique ou autre. Dans un génocide, on vous tue parce que vous appartenez à tel groupe qui est visé. Je donnerai un exemple. Au Rwanda, des Sénégalais, des Maliens ou d'autres personnes qui avaient le malheur de ressembler aux Tutsis ont été tués parce qu'on pensait qu'ils étaient Tutsis. Donc, il faut savoir aussi que même s'il y a la guerre, à l'intérieur de cette guerre, il y a quelque chose de plus important, c'est savoir gagner la guerre de l'extermination de cet ennemi-là. Et on verra que, par exemple, quand les nouvelles du front sont mauvaises, ce qui était par exemple le cas quand l'armée allemande a commencé à connaître des défaites sur le front de l'Est, malgré ça, aucun train de la déportation n'a jamais manqué au rendez-vous. Au Rwanda, alors que l'armée patriotique, donc les rebelles, gagnait du terrain sur l'armée régulière, si on peut encore lui garder cette qualification, il importait encore plus de finir de tuer les Tutsis plutôt que de combattre le FPR. Parfois même, il importait plus d'en finir avec ces cafards, ces cancres-là, comme on les appelait, parce que Tutsi, c'est trop anoblissant. À l'époque, on ne tuait plus les Tutsis, on tuait les cafards ou on enlevait la mauvaise herbe, on défrichait. C'était plus important. Il y a des gens qui se sont fait rattraper alors qu'ils étaient en train de finir le travail, comme ils disaient. Donc, on ne peut pas confondre la guerre de l'extermination et la guerre des armes, la guerre classique, si je peux me permettre, qui est en cours au moment du génocide. La logistique de l'extermination ne souffre en rien des difficultés liées à la guerre militaire. La logique de l'extinction totale de l'ennemi fait qu'on tue le mal dans l'œuf. Il s'agit, je le disais tout à l'heure, d'exterminer quelque chose qui est dans le sang, dans la nature, quelque chose qu'on ne peut guérir autrement. Donc, on va tuer la poule, mais on va casser les œufs aussi. Attention à la grippe aviaire. Hein. Donc, pareil, quand on va demander à Himmler qu'est-ce qu'on va faire des femmes et des enfants juifs, il va dire, mais vous n'allez pas laisser grandir parmi nous des gens qui seront encore plus mauvais que ceux que vous aurez tués. Dégagez-les. au Rwanda, parce que là, c'est plus récent et les images sont encore plus accessibles. Et il se fait que je peux y accéder malheureusement encore plus simplement. Mais on a tué certes des hommes en âge de combattre. On a tué aussi des femmes, souvent après les avoir violées. Mais on a tué des vieux incapables de quitter leur lit. On a tué des malades dans les hôpitaux. On a tué des enfants, des bébés. Mais parfois, souvent d'ailleurs, c'était le cas, quand on tombait sur une femme avec une grossesse avancée, on prenait le soin de sortir le bébé du ventre et de s'assurer qu'il ne survivra pas. Et je ne suis pas en train de jouer dans l'horreur. À la radio, c'était enseigné, ne laissez aucun petit cafard partir. C'est l'erreur qu'on a fait en 59. Kagame, qui était le chef de la rébellion, l'actuel président du Rwanda, il est parti quand il avait 2 ans. C'est l'erreur que nous avons fait. Genre, ne laissez pas survivre les enfants. Malheureusement, on a vu que ça a marché à fond, quoi. Contrairement aux purifications de territoires où il importe d'en chasser les occupants indésirables, indignes, dans un génocide, la logistique s'organise et en général, dès que le signal de départ est lancé, on ferme les frontières. On s'assure que personne ne pourra s'échapper, ça c'est essentiel, et on passe à l'action. On travaille, comme je viens de le décrire, on ne prend surtout pas le risque de laisser se répandre le mal. Et notre point, c'est que ceux qui se livrent à cet indicible carnage, en général, le font dans une ambiance qui étonne par son apparent enthousiasme, comme un sentiment de devoir accompli, sans la moindre apparence de culpabilité. On y va en groupe, bien organisé, avec des chefs, avec des mots de code qui, en général, tendent à anoblir l'action, l'infâme tâche. On va parler de mission, c'était le mot souvent employé dans le génocide des Juifs. Et au Rwanda, on parlait de travailler. Et comme tout le monde aime travailler et qu'on aime de bons travailleurs, effectivement, celui qui travaillait beaucoup était récompensé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Il faut savoir aussi que l'idéologie génocidaire résiste aux tentatives simplistes auxquelles on recourt souvent en parlant de folie collective ou d'une soumission qui serait passive, que les gens auraient été un petit peu victimes d'une propagande très bien faite. Il est vrai qu'avant d'en arriver là, il y a un travail de propagande qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on analyse. Mais au fait, ce qu'on constate, c'est que ceux qui participent au génocide, ils ont une conscience surprenante à la tâche. Souvent, ils exécutent avec une prise d'initiative, alors que dans l'horreur, alors que si on pouvait imaginer qu'il y ait une logique dans cette histoire complètement illogique, on pourrait s'attendre à ce que les gens qui tuent cherchent à faire le maximum de morts en moins de temps possible. Et au fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment le plaisir de faire souffrir les camps de concentration avaient des manières d'exploiter ceux qui devaient être mis à mort. Et au Rwanda, puisque ce temps n'était pas là, à part le viol et le fait de prendre le maximum d'argent avant de tuer les gens, on a vu quand même des gens qu'on a torturé alors qu'on savait parfaitement qu'ils allaient mourir, mais on a pris le temps de couper une jambe en promettant de revenir après de couper une autre, ainsi de suite, alors qu'il aurait valu que pour un travail qu'il fallait bien accomplir, du moins quantitativement, il aurait fallu les tuer le plus rapidement possible. Ça n'a pas été le cas. Et s'il y avait un groupe qui est passivement soumis, on s'attendrait plutôt qu'il exécute le plus rapidement et très rapidement qu'il retourne chez lui, quoi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a aussi autre chose d'important quand on essaye de penser le génocide, parce qu'il faut le penser. Et il ne faut surtout pas céder à quelque chose qui ressemblerait à dire « c'est incompréhensible, on n'y comprendra rien, c'est inhumain ». Non, c'est humain. Ceux qui le font sont des humains, et ils restent des humains, même en prison, reconnaissant ou ne reconnaissant pas ce qu'ils ont fait. Un génocide, c'est effectivement un projet de longue haleine. C'est un projet politique. Il se conçoit et se réalise en combinant trois types de forces. Effectivement, le pouvoir politique, présidence et gouvernement, cabinet ministériel et compagnie. Il y a aussi le pouvoir militaire qui doit être impliqué. Il y a l'administration, les cadres, les intellectuels, enfin, ce qu'on pourrait globalement nommer la société civile. Et un point important et qui est décisif, c'est l'adhésion des masses. Les masses sont impliquées et c'est quand elles sont adhérées au projet qu'on peut imaginer un projet génocidaire. Si les masses n'acceptaient pas de s'impliquer, autant on aurait de méga massacres, excusez-moi cette facilité du langage, mais un projet de génocide n'aboutirait pas en soi. Et enfin, je voudrais quand même balayer rapidement quelque chose qu'on entend notamment, puisque maintenant on parle un peu plus facilement du génocide des Tutsis, et très vite on dit que c'est barbare. C'est barbare peut-être, mais il faut savoir et admettre le fait que la civilisation n'exclut pas obligatoirement la barbarie. Et que donc le seul fait de dire que c'est barbare et que nous, nous sommes civilisés, cela ne nous protège pas. Je citerai juste quelques exemples. La Shoah n'a pas été conçue par des bêtes humaines qui avaient passé leur temps en prison ou ailleurs sur les collines allemandes. Excusez-moi, je suis rwandaise, le mot colline vient très facilement dans mon esprit. Il y avait des médecins, des artistes, des professeurs d'université. Ils y ont participé. On écoutait du Wagner. Hitler lui-même semblait l'apprécier. Mais chez ces barbares rwandais-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les têtes pensantes et qui ont encouragé, qui ont encadré les massacres, parmi eux, y étaient les meilleurs cerveaux, si on peut parler comme ça, du pays. Un exemple, un certain Ferdinand Nahimana, qui avait travaillé longuement à la radio du Rwanda avant que ne vienne la RTLM, la célèbre radio-télévision des Mille Collines, qui est venue bien plus tard. Hein. Mais il y avait eu Radio Rwanda, il y avait eu les journaux comme Kangura et d'autres. Hein. Ce type, il avait étudié à la Sorbonne. Il avait eu son doctorat avec mention. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il y avait eu de mauvais français, qu'il lui avait sûrement mis de mauvais esprits dans la tête, parce qu'en ce moment aussi on tire beaucoup sur la France. Je ne suis pas en train de la défendre, mais il avait eu parmi les gens qui avaient été dans le jury de son doctorat, il y avait par exemple Jean-Pierre Chrétien, qu'on ne peut pas accuser d'avoir cherché à nuire au Rwandais. Ce type, c'était donc un diplômé de la Sorbonne. Celui qui avait enseigné que les Tutsis devaient retourner chez eux via le Nyabarongo, qui est la source du Nil, il était professeur d'université actuellement d'ailleurs, il n'a pas de mal à trouver du travail au Canada. Il y avait beaucoup de médecins, et au Rwanda on ne formait pas des médecins, c'était des gens qui avaient étudié soit en Belgique, soit en France, soit aux États-Unis, c'était vraiment des têtes. Il est vrai que le génocide au Rwanda a été accompli par un outil barbare peut-être, à savoir la machette. Mais n'oublions pas que ça a été aussi accompli avec la radio. Une radio à l'oreille, dans une main et dans l'autre, une machette. Pour revenir sur cette barbarie supposée, j'aimerais aussi qu'on réfléchisse sur les lieux du génocide. Beaucoup de gens ont été tués dans des écoles, lieux de civilisation par excellence, dans des églises, la civilisation de l'esprit et de l'âme carrément, ou bien dans les hôpitaux. Et donc, moi, je crois qu'effectivement, tout cela, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de populations analphabètes, tout ce que vous voulez, mais je crois que pour savoir qu'on ne tue pas son voisin, qu'on ne tue pas un bébé, ça ne demande pas d'avoir des diplômes. Autre chose que je voudrais dire avant d'en finir avec ce passage, c'est que la victime gêne. Et que du moment où elle nous gêne, on tombe dans le déni, qui n'est pas à confondre avec le négationnisme. Le déni, c'est des mécanismes psychiques que nous avons tous. À savoir que quand une réalité difficilement acceptable nous est exposée, il y a notre appareil psychique trouve des excuses pour y échapper, pour continuer à vivre confortablement. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Souvent, on plonge dans ce qu'on appelle le travail de rationalisation. On trouve des explications ad hoc. C'est des barbares. Ils se sont entretués. Mais je crois que tout à l'heure, peut-être Laurie reviendra un peu plus. Ils se sont entretués. C'est loin. On ne peut rien y comprendre. Et il suffit qu'on se dise qu'on ne peut rien y comprendre, ces histoires de Hutu et de Tutsi, ah ben, on dort tranquille. Aujourd'hui, vous avez voulu venir ici. Ça, là, ça ne suffira plus, hein. Excusez-moi, c'est pour ça que je suis là. Et ceux qui m'ont invité savaient que c'était pour parler de ça. Effectivement, puisqu'on parle de ces barbares, hein, et que c'est vrai que le génocide des Tutsis du Rwanda est moins connu et qu'on a souvent été exposé à un travail d'intoxication, mais vraiment de professionnel, je voudrais juste rappeler quelques points de l'histoire du Rwanda. Vous avez peut-être dû l'entendre, mais il est vrai que les Rwandais ne sont pas constitués de trois ethnies qui passent leur temps à se haïr et, quand elles peuvent, à s'entretuer. Les Rwandais, bien avant que les cartes d'identité nationale ne viennent figer leur appartenance ethnique comme une donnée fondamentale de leur histoire, se concevaient d'abord comme des Rwandais. Ils étaient très fiers de l'être. Je rappelais tout à l'heure à Laurence qu'ils considéraient que le Rwanda, c'était le centre du monde. Et ils aimaient à dire que Dieu, le Créateur en qui ils croyaient, pouvait passer ses journées partout ailleurs dans le monde, mais qu'obligatoirement, il revenait passer ses nuits au Rwanda. C'était peut-être l'épouse préférée de ce Dieu-là. Et les Rwandais, plutôt que de se voir en termes de Hutu, Tutsi et les Batois, dont on ne parle pratiquement jamais, ils avaient d'autres appartenances. Alors les termes de tribu, clan et ethnie, au fait, n'arrivent pas vraiment à rendre la réalité de ce qui est au Rwanda. Parce que les gens avaient d'autres appartenances, où d'ailleurs ces Hutu, Toi et Tutsi se croisaient, qu'on ne peut pas appeler, on appelait ça un mot, quoi, en Kinyarwanda. Jusqu'ici, que ce soit les linguistes et les historiens que j'ai eu le courage d'affronter, de leur dire, mais dites-moi, c'est quoi la différence entre les ethnies que vous dites Hutu, Toi, Tutsi, et les Amoko, Tidone, les Bashambo, les Basindi, les Banyiginya et compagnie. Enfin, j'ai pas encore trouvé de réponse. S'il y a quelqu'un qui a une réponse, je serais vraiment ravie d'apprendre. Et non seulement il y avait ça, d'ailleurs dans ce cas ils partageaient les rites religieux, et parfois ils ne pouvaient pas se marier parce qu'ils appartenaient justement à cet autre groupe-là, à Moko, que je ne sais pas nommer autrement. Mais surtout, ce qu'on voyait aussi, c'est qu'il y avait une sorte de complicité et d'identification commune assez régionalisée. Parce que l'histoire du Rwanda, pas telle qu'elle a été seulement écrite dans les livres d'Oblon, excusez-moi, mais tel qu'on la raconte de manière orale, on dit que le Rwanda a été constitué d'abord par des conquêtes. Et donc, suivant peut-être qu'on était d'une région, on pouvait se sentir plus proche des gens de cette région que ceux qui étaient du côté de la frontière. Ceux qui habitaient les montagnes avaient une identité un peu plus particulière par rapport à ceux qui habitaient les vallées. Ceux qui habitaient des régions qui se trouvaient aux frontières, donc qui craignaient des razzias et autres, pouvaient avoir plus de complicité entre eux et des soucis de ça, plutôt que ceux qui habitaient les régions sèches, qui pouvaient avoir le souci de la pluie et de quand est-ce qu'on va pouvoir planter. Dans toutes les histoires que j'ai pu avoir de la culture populaire, je mets les guillemets, il n'y a rien, il n'y a nulle part où on parle des histoires de division impossible entre Hutu et Tutsi, de ces identifications. La seule exception qu'il y a, c'était ce qui concernait les Banyiginya. Encore une fois, je parle des Amokona. C'était les Banyiginya, le clan Nyiginya, je cède aux Français, c'était celui qui donnait les rois. Mais les rois, pour s'attirer la sympathie de toutes les régions, ils avaient effectivement de manière prescrite des amokos dans lesquels il fallait chercher les épouses officielles, mais il essayait d'avoir le maximum de femmes dans toutes les régions parce que quand il avait pris femmes sur une colline, c'était leur fille. Et donc tout le monde devenait un peu, enfin, se sentait reconnu par la grâce royale. Et donc, ce n'est pas parce qu'on était Tutsi qu'on devenait roi, c'est parce qu'on appartenait d'abord au clan Nyiginya et à une famille, un peu comme partout d'ailleurs. Les Tutsis ont pris le pouvoir, ont eu un ascendant dans l'exercice du pouvoir, surtout au lendemain de la colonisation. Bien sûr, quand le roi était Nyiginya, c'était pratiquement, enfin, ça allait de soi que son frère soit un prince plutôt qu'un petit agriculteur. Et effectivement, il y avait plus de Nyiginya sur le trône ou de beaux-frères du roi autour du trône que les pygmées ou les gens qui étaient perdus dans les collines. Je me fais comprendre, ça allait de soi. Mais une fois que l'homme occidental est arrivé, avec les schémas de pensée de cette époque, on était quand même en plein dans le darwinisme, notamment le darwinisme social, mais aussi dans les théories raciales. À cette époque, ça ne faisait pas honte de mettre les gens sur une échelle. Quand ils sont arrivés là-bas, on était aussi à une période où, assez classificatoire encore quand même, ça commençait à changer. Les nègres, ils étaient comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Ils arrivent dans un pays où ils ont mis longtemps à pouvoir entrer. Ils tombent sur des nègres un peu bizarres. Ils sont trop grands. Ils n'ont pas le nez aussi épais que le mien. Ils sont visiblement, à l'analyse de l'allemand qui parle, ils étaient trop beaux. En plus, ils avaient un pays structuré qui avait résisté. Ces gens-là ne pouvaient pas être des nègres, vraiment. Voilà le premier... racisme qui va marquer l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Ces Batutsi qui régnaient au Rwanda ne pouvaient pas être des nègres. Puisqu'à cette époque, le Muzungu, le blanc, a fini par régner, quand il disait à ces Batutsi-là qu'il n'était pas complètement comme ces petits nègres et la populace, qu'il était quelque part proche de lui, certains y ont trouvé des raisons de se sentir fiers de cette appartenance. Et en plus, à l'époque où on a commencé à écrire, à coucher sur une feuille, quand je parlais d'écrire, c'est de mettre par écrit l'histoire du Rwanda. Elle a été écrite par des gens qui ne comprenaient pas le Kinyarwanda. Et je ne vous conseille pas de vous y mettre tout de suite, c'est une langue compliquée. Si je n'avais pas eu la chance de la parler dès la naissance, je ne l'aurais jamais apprise. C'est possible, mais c'est dur. Des gens qui interprétaient ce qu'ils voyaient par rapport à ce qu'ils savaient dans leur système classificatoire. Les écoles ont été ouvertes. C'était la première fois de l'histoire du Rwanda qu'une armée étrangère avait attaqué le Rwanda et avait gagné, réussissant à soumettre les Rwandais. Le dieu du Rwanda passait la journée ailleurs. Il rentrait dormir au Rwanda, mais les Rwandais, qui n'étaient pas très peu fiers, racontaient aussi que le Rwanda attaque et ne saurait jamais être attaqué. C'était des guerriers dans l'âme. Et c'était la première fois qu'ils étaient soumis. Et il y avait une admiration, une crainte de ce blanc Une fois que le roi était soumis, effectivement, ce que le blanc disait, ce que l'Église disait, parce que l'Église était toujours là, c'était ce qu'il fallait croire. Parce que le seul roi qui, enfin, le roi qui avait essayé de s'y opposer, le roi Musinga, avait été déporté, une nouveauté au Rwanda aussi. Parce que le roi, c'était quelqu'un qui mourait, mais on ne déportait pas un roi. Un roi ne pouvait pas régner à la présence d'un autre, ça ne se faisait pas. Et donc, il y avait eu déjà plusieurs moments de l'histoire qui avaient été bouleversés. On a pris des jeunes Tutsis, puisque les Tutsis étaient mieux que les nègres, n'est-ce pas ? Qu'on a mis dans les écoles, on leur a appris ces théories. On a donné des cartes d'identité en disant, là ce sont des Tutsis, là ce sont des Hutus. On venait de figer des appartenances étriquées et durant des années, on va effectivement instaurer ce système de supériorité supposée des Tutsis sur les Hutus. Quand ça va commencer à mal marcher, mais surtout quand les Belges vont venir et qu'il y aura beaucoup, beaucoup de prêtres, fils de paysans flamands qui vont arriver au Rwanda et qui n'auront pas toujours le même regard que les fils de grandes familles wallonnes qui sont là pour régner, surtout sur le grand Congo belge bien plus riche que le petit Rwanda et le petit Burundi. Ils auront tendance, ces prêtres-là, à s'identifier un petit peu au Hutu. Les idées d'une sorte de révolution, d'une paysannerie exploitée alors qu'elle est majoritaire par une minorité qui serait venue de l'extérieur, à savoir les Tutsis, ces idées-là vont germer. Ils vont être exploités. Et quand la période des indépendances va sonner, ces idées seront exploitées. Les Tutsis deviendront des étrangers qui sont venus à servir les véritables Rwandais, à savoir les Hutus. Les bateaux, on ne s'en soucie pas, hein, toujours pas. Même à cette époque, on ne s'en souciait pas. Et au fait, il est arrivé que un Belge réponde à des Tutsis qui réclamaient l'indépendance en disant « Vous, ça fait combien de temps que vous colonisez ce pays ? Quand vous serez partis, nous aussi, on partira. » Donc, le Tutsi, effectivement, avait fini par être conçu comme quelqu'un de hors Rwanda. Ces idées-là vont être reprises. En 59, on va massacrer. De 61 à 68, on va massacrer. En 73, on va massacrer. Le massacre du Tutsi. Jamais de Hutu. Le terme de massacre interethnique était mensonge historique, mais aussi un refus de dire la vérité. Au Rwanda, c'est toujours de 59, parce qu'avant 59, il n'y avait pas eu de massacre à caractère ethnique. Il n'y a même pas un mot en Kinyarwanda pour désigner ni guerre civile. Je vous ai dit que c'était inconcevable et que le Rwanda puisse se combattre entre ses enfants. Il n'y a pas de terme pour désigner guerre civile et encore moins massacre ou génocide. Les Rwandais se battent d'ailleurs pour trouver un terme désignant le génocide et à lassés de se battre, ils ont dû accepter, maintenant ils disent génocide ou dinocide, parce qu'il y a aussi l'anglicisme qui est là. Et donc, jusqu'à ce qu'en 90, il y ait ces fils d'anciens exilés qui, lassés de la situation qui était la leur dans les pays d'exil, mais aussi du racisme que les Tutsis d'intérieur subissaient au quotidien, alliés à ceux qui avaient réussi à échapper au pouvoir de Habyarimana, ont attaqué et que commence la propagande de la haine qui va aboutir en 1994 à l'extermination des Tutsis et de ceux qui y ressemblent. Je ne suis pas en train de dire que les Rwandais sont des saints qui se sont retrouvés pris dans le piège du colonisateur. Ce sont des Rwandais qui ont pris des machettes et qui ont coupé d'autres. Mais renvoyer les Rwandais à leur barbarie et refuser d'analyser l'histoire ou se contenter de dire que les ethnies, c'est un mensonge et refuser d'interroger l'histoire. Se référer à la seule histoire écrite depuis 1900 seulement, je crois que c'est un refus d'analyser l'histoire et les faits tels que nous les avons aujourd'hui. Je crois que j'ai dépassé les minutes qui m'avaient été accordées. J'arrête là. Je pourrais peut-être répondre un peu à vos interrogations tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup.